reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France. C'est deux. Contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est Au de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas, qui essaie. Et c'est aussi une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Renan Mahé et David Federman à la technique, Jean-Christophe Pinaza nous assiste, ainsi que Marion Lelay et Valérie Ayesteraille réalisent l'émission. Allez, une petite humeur. Nous en sommes, rappelons-le, au 58e jour de l'accident de la centrale de Fukushima et la radioactivité dans l'océan continue de grimper. Fukushima, nous dit-on, ce n'est pas Tchernobyl. Pourtant, comme les liquidateurs russes et ukrainiens d'il y a 25 ans, les techniciens japonais qui s'aventuraient jeudi à l'intérieur du bâtiment numéro 1 n'y restaient pas plus de 10 minutes. Donc tout va très bien, Madame la Marquise. Le chef de l'État nous l'a rappelé pas plus tard que mardi. C'était à la centrale de Gravelines, dans le Nord. Et tout autre choix que le nucléaire serait proprement moyenâgeux. Moyenâgeux comme le purin d'ortie, cette invention malodorante et diabolique qui menaçait jusqu'à il n'y a pas si longtemps de dévaster nos riantes campagnes et dont il était quasiment interdit de prononcer le nom. Eh bien, depuis le décret paru jeudi au journal officiel, c'est possible, même s'il s'agit d'une version Canada Dry du purin d'ortie, une recette concoctée pour ne pas porter ombrage quand même au lobby de l'agro-pétrochimie. Bref, un petit pas pour le jardinier, un saut de puce pour l'ensemble de la filière. Et la réduction de 50% de pesticides annoncée au Grenelle de l'environnement, il bouge encore celui-là, bien absolument, qui sera donc à peine entaillé. Notons qu'en Allemagne, plus de 400 produits à base de substances naturelles sont autorisés. Alors qu'est-ce qui manque au catalogue français des préparations naturelles peu préoccupantes ? Comme on dit au ministère, il ne manque que quelques centaines de recettes à base d'ail, d'artichaut, de basilic, de thym, de tournesol, de laurier. On attend donc la suite. Notez que ce qui risque de manquer dans les campagnes cet été, ce n'est pas le purin d'ortie, mais tout simplement l'eau. Dans certaines régions, depuis le début de l'année, on a compté les jours de pluie sur les doigts de la main. Et donc, si ça continue, nos amis bovins seront bientôt champions du monde de la terre battue. Et on pourra sans aucune difficulté délocaliser Roland-Garros au milieu de la Beauce. Sol sec et nappe phréatique à moitié vide, ont sans doute égale période de vaches maigres à l'horizon. Et la FNSEA pronostique jusqu'à 50% de perte de fourrage sur la récolte de printemps et prévoit que les besoins en paille pourraient être multipliés par 4 ou 5 cette année. Et donc, s'ils n'ont plus de paille, comme dirait l'autre, qu'on leur donne de la brioche. Alors en mai, fais ce qu'il te plaît. Et mardi, nos députés, un peu contre toute attente, ont appliqué le dicton à la lettre et ont voté contre l'avis du gouvernement l'interdiction de l'utilisation de perturbateurs endocriniens dans les produits grand public. Emballages, peintures, produits de beauté, Porsche Panamera, des produits comme les parabènes ou les phtalates qui vous prédisposent, mesdames, au cancer du sein ou bien réduisent votre fertilité, messieurs, comme une peau de chagrin. On espère que le Sénat n'aura pas un vote contre. Catastrophe nucléaire, pesticides et autres poisons violents. Et si le problème de Bède la Naine, c'était que l'humanité, pour se faire peur, n'avait plus besoin de gens comme lui. Alors aujourd'hui, donc, ça va être une émission, réponse à vos questions, qui sont arrivées en fait au fil de l'eau, vous savez, fil de l'eau qui manque, mais donc on a stocké sur le répondeur 01 56 40 40 35, et puis au bout d'un certain temps, on se dit, mais on a déjà un bon petit paquet de questions, donc on va vous répondre, et donc on parlera alors à la fois de décisions dans le domaine du nucléaire, on ira à Hanovre, on parlera de plan climat, on verra aussi comment devenir éco-volontaire, et là, nous avons notre première question.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Je suis Marie, nouvellement de La Rochelle. Et quand je suis arrivée à La Rochelle au mois d'avril, il y avait des lilas magnifiques. Ça sentait bon partout. Enfin, des amis m'en ont fait des bouquets pour ma maison, nouvellement aménagée, puisque je suis venue là, à La Rochelle, pour le festival Terre et Lettres, dont on s'est occupé avec notre petite association. Et pour en revenir au lilas, je voulais savoir, en revanche, l'histoire de cet arbuste. parce que je ne la connais pas. Et je ne sais pas si Jean-Marie Pelt pourrait la raconter, par exemple.
Alors, je ne sais pas, Marie, si vous êtes actuellement sur le Vieux-Port, face à la Tour Saint-Nicolas. C'est quand même très, très agréable dans cette capitale de l'Aunisque. Autrefois, Genève française, comme on disait, parce que citadelle protestante. Mais Jean-Marie Pelt va pouvoir vous répondre donc sur le Lila.
Probablement de Perse, mais il s'est exporté il y a sans doute très, très longtemps en Turquie. Et il a été une fleur tout à fait symbolique et appréciée des grands sultans, et en particulier de Soliman le Magnifique, qui paraît-il l'aimait beaucoup. Il a été vu et décrit pour la première fois par un certain Pierre Belon, qui est un botaniste français, qui était le premier à découvrir les plantes du Proche-Orient et de la Terre Sainte, et qui a ramené en France les premiers platanes.
Oui, donc il a couvert les routes
de
platanes.
Non, c'est Napoléon.
Oui, c'est après le
seul. Il en a planté seulement quelques-uns. Ouais. Et c'est à partir de Napoléon que nos routes se sont effectivement couvertes de platanes. Alors, le lilas, il n'en a pas ramené, mais il a été ramené par un ambassadeur italien de Busbecq, qui se les est fait offrir par le fameux Soliman le Magnifique, oui, qui était l'ami de François Ier, quand on s'est tout d'un coup amouraché des Ottomanes, à l'époque du Grand Turc, n'est-ce pas? Et il est arrivé en Europe, et en France en particulier, et il a fait une carrière extrêmement importante au XIXe siècle. Ah. Le XIXe s'est amouraché du lilas. Oui. Il a un peu décliné après ça, parce qu'on a considéré qu'il avait un défaut, c'est qu'il ne fleurissait pas assez longtemps. Mmh. Alors, il y avait un horticulteur qui a dit, mais c'est pas grave, comme ça, on a 11 mois pour en rêver et un mois pour le regarder.
C'est très joli, mais déjà, on était dans l'époque du toujours plus.
C'était toujours ça. Et on a fait, effectivement, toujours plus de lilas, puisque Victor Lemoine, qui est le grand horticulteur de Nancy, au siècle avant-dernier maintenant, et au début du siècle dernier, a réussi, en faisant de la sélection, à produire plus de 200 variétés différentes de lilas. Oui. Et ces variétés se distinguent par deux caractères. D'abord, les couleurs. La couleur lilas.
Lilac, qu'est-ce que ça signifie, d'ailleurs?
Lilac, en persan, ça veut dire couleur mauve. D'accord. Donc, le lilas porte le nom de sa couleur.
À l'origine, mauve, il n'était pas blanc.
Il était mauve. Oui. Et il y a des lilas qui sont blancs, il y a des lilas qui sont mauve foncé, ce que je préfère, moi, un mauve fort.
Soutenu.
Et puis, il a aussi développé des lilas doubles, oui, dont les fleurs ont, cette fois-ci, 8 pétales au lieu de 4, parce qu'il y a une étrangeté dans le lilas, c'est qu'il a une architecture florale très particulière qui appartient aux plantes de sa famille. La grande majorité des plantes à fleurs ont 5 pétales, il n'y en a que 4. Et la grande majorité des fleurs aussi ont 5 étamines, il n'y en a que 2. Alors il y a des fleurs qui ont 3 pétales et 3 étamines, mais 2 c'est très rare. C'est caractéristique de ce groupe. Et curieusement, vous savez comment elle s'appelle cette famille? C'est pour montrer qu'il y a des choses étranges dans la botanique. Elle s'appelle la famille des Oléacées.
Ce qui nous rappelle l'olivier quand même.
Du nom de Oléa, oui, qui est le nom de l'olivier. Alors un olivier, ça ne ressemble pas du tout à un lilas. Oui. Et les fruits sont extrêmement différents. Les fleurs sont toutes petites dans l'olivier. Mais elles sont construites sur cette architecture. Alors les fruits, ben, les olives, tout le monde connaît, avec un gros noyau. Dans le lilas, le fruit, c'est une petite capsule sèche qui s'ouvre par 2 valves. Dans le frêne, qui appartient à cette même famille, le fruit, c'est un petit fruit sec avec une belle aile qui fait que quand le vent l'emporte, il tourbillonne. Hein, vous voyez ça? Les troènes, c'est une petite baie. Alors voilà une famille très étrange où il y a une stabilité absolue dans l'architecture de la fleur et la plus grande des fantaisies en ce qui concerne la nature du fruit. Voilà.
Et alors, en plus, ce n'est pas un arbre qui est rancunier, parce que lorsque vous le taillez parfois un petit peu mal, eh bien, il repousse quand même. Il est généreux. Quoi.
Il a un bon fond, un arbre d'une grande vigueur. Ouais. C'est peut-être ce qui a inspiré la création de la commune suburbaine des Lilas.
Ouais, oui. Vous savez, et la porte des Lilas aussi.
Et la porte des Lilas. Ouais. Et vous savez que Serge Gainsbourg avait...
Point sonneur des lilas, mais bien sûr, je vais vous aider. Parce que,
oui. Avait épousé la cause du point sonneur des lilas.
On ne sait plus ce qu'est un point sonneur aujourd'hui, donc laissez tomber.
Dans une chanson célèbre.
Mais bien sûr, c'est absolument. Voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci à vous. Et puis donc, vous renvoyez donc à cet ouvrage de fond qui s'appelle « La beauté des fleurs et des plantes décoratives ». C'est édité au Chêne. Et c'est signé notre bon Jean-Marie Pelt, que l'on retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et pendant ce temps-là, il va réviser son Gainsbourg, je peux vous le dire. Voilà, le lilas était un peu passé, mais c'est pas grave, il y en a encore un petit peu. Allez, Paul Persson, et après, deuxième question qui est arrivée sur le répondeur.
Le soleil en zénith me fait du bien, le vent me fait passer. Aucun drame ne se trame à côté. L'air est chargé d'un souffle d'innocence. D'amour, d'amitié, de sourire sincère et de main serrée. J'ai rêvé d'une vie qui n'était pas comme avant.
J'ai rêvé, mais la vie est toujours comme avant, nous dit Paul Persson. Mais ne t'inquiète pas, Paul, un jour, les gens vraiment s'intéresseront à l'environnement dans ce pays. Mais si, il ne faut pas désespérer. Allez, 01 42 20, 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis. Après Fukushima, on vient de célébrer tristement les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Et je me pose les questions suivantes. Qui en France a la main sur le nucléaire? Qui prend vraiment les décisions? Merci Denis.
Alors, c'est pas moi qui vais répondre. Thomas, vous habitez en Alsace. Je sais pas si vous êtes du côté de Fessenheim, mais en tout cas, vous êtes en Alsace. On est assez sensibilisés malgré tout sur ces sujets. Et pour répondre à votre question, Guillaume Mallory, qui est journaliste au Nouvel Observateur, et début avril, eh bien, un dossier est paru sur ce thème. Guillaume Mallory, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors, qu'est-ce que l'on peut répondre à cette question? Puisque donc, en fait, ça part quand même d'assez loin. Ça part quand même de 1974. Et il y a eu donc le choc pétrolier de 73. Et en 74, Georges Pompidou, malheureusement, est très malade. Il va mourir le 2 avril. Et c'est vraiment là que va débuter donc, cette politique nucléaire. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Comment il faut comprendre les choses?
Non, effectivement, vous avez raison de rappeler cette période clé parce que non, on ne peut pas parler de putsch, mais on peut parler quand même d'une prise de pouvoir. C'est-à-dire que c'est la prise de pouvoir des techniciens, c'est-à-dire des gens qui étaient liés à tout ce qui était énergétique et particulièrement à l'intérieur d'un corps qui est le top du top, la crème de la crème, l'élite de l'élite, c'est-à-dire le corps des mines. ça paraît un peu abstrait pour les gens, mais c'est quand même la botte de Polytechnique, plus les premiers d'un certain nombre de très grandes écoles. Et c'est eux qui ont pris en main la politique énergétique française. Et c'est eux qui proposent, au moment où les politiques étaient totalement désorientées, puisque le prix du baril venait de multiplier par 2, 3, voire 4, et là, la question, c'était comment on répond. Et ils arrivent et ils disent, on a une solution. La solution, c'est le nucléaire, qui avait déjà été développé en France, mais avec une technique qui, finalement, n'a pas fonctionné plus que ça. Et donc, ils arrivent pratiquement, je raconte l'histoire, parce que c'est Boiteux qui la raconte.
Marcel Boiteux, qui était président donc d'EDF.
Voilà. Boiteux reçoit un coup de fil du directeur de l'énergie, et qui lui dit combien de réacteurs vous pouvez. Et il lui donne un chiffre, 3, 4, 5, 6 par an. Et il pensait que deux, ça serait la réponse. Et en fait, au bout d'une demi-journée, le chiffre maximal est avalisé et on est parti pour les 58 nouveaux réacteurs qui produisent aujourd'hui 78% de la puissance électrique française. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, finalement, le politique n'a pas eu grand-chose à dire. D'ailleurs, Boiteux le dit, il le dit très ouvertement, et dans son livre et dans une interview qu'il avait faite et qui avait été filmée, il dit « Mais vous savez, si on était passé par les politiques, ça aurait été très compliqué, et puis il aurait fallu leur expliquer tant de choses. » Oui, c'est extraordinaire, d'ailleurs, la manière dont il le dit. Il revendique le fait que, finalement, c'est la corporation technicienne qui apporte une réponse, et pour qu'elle soit efficace, mieux vaut que la politique ne s'en mêle pas trop. Et effectivement, vous avez raison de rappeler qu'à ce moment-là, Pompidou était mourant, c'est-à-dire la puissance de l'exécutif dominante. Et donc, il y a eu sans doute un conseil à l'Élysée qui a ratifié ça, mais enfin, Pompidou était hors d'état. Il n'y avait pas de contre-pouvoir. Le secrétaire d'État de l'époque à l'environnement, devinez qui c'était ? Bien, c'était Alain Perfit, oui. Parce que Poujade avait été viré. Donc, en fait, il n'y avait absolument aucun contre-pouvoir et pas non plus de débat à l'Assemblée.
Alors, qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui, on va dire Guillaume Mallory, maintenant que les choses ont évolué, où en est-on ? Est-ce que c'est toujours donc les X-Men qui décident et qui font passer, on va dire, ces idées-là donc aux politiques ? Elle est parfaitement d'accord, d'ailleurs, à droite comme à gauche. Où en est-on aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui, les choses ont quand même évolué, il faut le reconnaître. D'abord, il faut saluer quand même la prouesse énergétique, enfin la prouesse technique du programme nucléaire, qui n'est pas rien.
C'est une réalité, oui.
C'est une réalité, et puis c'était pas évident à faire, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, etc. Bon. Maintenant, aujourd'hui, nous avons, ça repose sur une autorité de sûreté nucléaire, qui est l'ASN, qui est dirigée par M. Lacoste, et qui est toujours aux mains des X-Men, mais ça peu importe, mais qui a quand même une puissance d'évaluation et qui donne au coup par coup, si vous voulez, l'autorisation de renouvellement ou de nouveaux réacteurs, de renouvellement des anciens réacteurs ou à l'arrivée des nouveaux réacteurs.
Donc on va dire une certaine indépendance, voire une indépendance ou une certaine indépendance, on va dire.
Une certaine indépendance, d'autant qu'il y a une autre instance qui est l'instance d'enquête, qui elle est l'IRSN, qui est chargé des enquêtes avant, de telle manière que l'autorité de sûreté nucléaire prenne sa décision. Et il y a eu un cas qui a été rendu public par des fuites, mais qui est assez connu, où l'IRSN avait dit, et là on revient à l'actualité très chaude, avait dit les risques sismiques doivent être réévalués pour les centrales, notamment pour Fessenheim. Et EDF, naturellement, n'était pas d'accord, disait que c'était trop, etc. Il se trouve que dans ce débat-là, il y a quelques années, l'autorité de sûreté nucléaire avait tranché en faveur d'EDF et en défaveur de l'IRSN. Je ne sais pas si demain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, puisqu'il va y avoir un certain nombre de tests qui vont être réalisés, je ne sais pas si on aboutira, notamment pour Fessenheim ou pour d'autres réacteurs comme Tricastin, on en arrivera aux mêmes conclusions et si, d'une certaine manière, l'autorité de sûreté ne va pas s'émanciper un petit peu plus, naturellement, d'une sorte, si vous voulez, de chantage de facto. C'est pas un chantage méchant, mais c'est un chantage de facto. Parce que si demain, on trouvait dans les centrales actuelles un défaut, ce qu'ils appellent un défaut générique, c'est-à-dire qu'il nécessite l'arrêt des centrales pour le réparer. Qu'est-ce qu'on ferait ? D'une certaine manière, le politique dirait « Attendez, vous n'allez pas couper le courant à l'ensemble du pays. » Bon, l'autorité de sûreté dirait « Oui, mais attendez, il y a danger. » Alors, et c'est à l'autorité de sûreté de décider, et qui sera finalement entre deux logiques, une logique d'approvisionnement qui est aujourd'hui majoritairement concernant l'électricité nucléaire, et une logique de sécurité sanitaire. Si vous voulez, l'autorité de sûreté nucléaire, comme son nom l'indique, elle est en charge de la sûreté de la filière nucléaire, pas forcément de la sécurité sanitaire des gens qui sont à côté. Et ça, il faut bien le comprendre, parce qu'ils sont pris, naturellement, ils prennent en charge les deux logiques, mais il peut se trouver qu'à un certain moment, ces deux logiques s'entrechoquent et qu'il ne soit pas si facile de décider.
Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui, éventuellement, dans cette notion de pouvoir et de décision ? Bon, le public n'est pas exactement dans la boucle, c'est moins qu'on puisse dire. On sait très bien que d'un côté, on va avoir des réactions, on va dire, qui sont émotionnelles. De l'autre, on va avoir des réactions qui sont purement scientifiques. Le mariage n'est pas simple. Donc, qu'est-ce qui est choquant peut-être pour vous qui avez étudié
ça ? Il y a deux choses qui apparaissent, puisque c'est ce qu'on appelle le fameux retour d'expérience de Fukushima. Il y a deux choses qui apparaissent. Il y a une première, c'est on peut mettre en doute, si vous voulez, l'évidence avec laquelle, par exemple, le patron de EDF a déclaré il y a quelques mois que les centrales existantes pouvaient être renouvelées jusqu'à l'âge de 60 ans. Tout ça est capitalisé rapidement dans les comptes d'EDF et dans sa valorisation. Si vous voulez. Or, il faut encore que l'autorité de sûreté nucléaire, tous les 5 ans, avalise ce renouvellement, ce qui n'est pas forcément évident. Mais, si vous voulez, il est évident aussi que si l'exploitant, c'est-à-dire l'opérateur, c'est-à-dire EDF, monte petit à petit tout l'équilibre financier qui est le sien sur un renouvellement à échelon de 60 ans alors qu'on en est à 30 ans, il est évident que ça lui fait beaucoup d'économies et que, d'une certaine manière, il a un pouvoir d'influence sur l'ASN en disant, attendez, vous allez mettre, si vous interdisez le renouvellement, vous allez mettre en péril la filière. Et là, il y a un vrai problème, c'est celui-ci, c'est que, naturellement, l'intérêt énergétique de la souveraineté française est en cause, et à partir du moment où EDF construit cet intérêt à partir d'une règle qu'il s'est fixée, qu'il se fixe entre eux, hein, je veux dire, l'exploitant, c'est exactement ce qui s'est passé à Fukushima. C'est-à-dire que à Fukushima, on était un réacteur qui avait 40 ans. Le renouvellement s'est fait alors que les tests qui devaient être passés n'avaient pas été faits. C'est ce qu'on a su peu avant, d'ailleurs, l'accident de Fukushima. Les tests n'avaient pas été réalisés. Et il se trouve que parmi les éléments qui étaient les éléments fragiles, il y avait les moteurs auxiliaires pour pomper l'eau en cas de problème, et en cas de séisme. Bon, il se trouve que c'est ceux-là qui sont tombés en rade. Je ne dis pas que tout s'explique par ça. Mais ce que je veux dire, c'est que cette automaticité presque dans la tête de l'exploitant du prolongement des centrales pose un problème aujourd'hui. Parce que sa logique économique n'est pas forcément la logique sanitaire, et c'est difficile pour l'ASN de faire face à ces pressions.
Guillaume Allery, moi j'ai envie de revenir quand même sur le public. Il se trouve qu'un député UMP de la Meuse qui s'appelle Bernard Pancher, qui a été d'ailleurs assez courageux, a proposé qu'un organisme indépendant organise donc un large débat public à la manière scandinave. Bon, il s'est fait siffler par son groupe. Alors, je sais que le public n'a pas forcément une culture scientifique, n'a pas forcément un DEA de physique nucléaire, mais il est quand même utilisateur, contribuable, citoyen. Il peut aussi réfléchir à la fois aux bienfaits et aux risques du nucléaire. Alors, quid du citoyen dans le processus de décision ?
Pancher a raison. Il y a un exemple très concret, si vous voulez, qui peut être donné. C'est qu'en Suède, il y a eu finalement un accord sur l'enfouissement réversible des déchets ultimes nucléaires, ce qui n'est pratiquement impossible en France, parce que tout le dialogue est bloqué. Alors, ce que met en avant Pancher, c'est qu'il y a une culture de l'information en Suède qui est beaucoup plus forte. Et des débats permanents, locaux, régionaux, etc., qui ont fait même en sorte, d'ailleurs, que le référendum qui avait décidé l'arrêt du programme nucléaire suédois a été arrêté, c'est-à-dire que le programme continue. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une culture permanente du débat public que nous n'avons pas. Nous avons une culture finalement verticale où voilà, on décide de poser un sujet et puis après, c'est vrai que ça s'apparente souvent à la communication.
Et après, c'est donc, bien frontal. Très souvent, après, c'est voilà, frontal, oui.
Voilà. Et on ne sait pas faire parce qu'on a une culture jacobine, etc. Mais il va bien falloir apprendre à faire. Parce que si on n'apprend pas à faire, c'est bloqué sur la question de l'enfouissement, c'est bloqué. Forcément, si vous voulez, dans les temps qui viennent, même si Pancher rate son coup maintenant, il va bien falloir le faire demain ou après-demain. Sinon, ça ne passera plus.
Alors, je vais vous demander une petite conclusion donc, sur le pouvoir nucléaire en France. Et comme, bien sûr, les temps ont radicalement changé depuis 1974, quelles sont vos interrogations aujourd'hui ?
Le corps des mines continue d'être l'armature technique, si vous voulez, ça c'est évident, avec des réseaux et des relais dans l'appareil d'État, ça c'est certain. Mais en même temps, il est tout aussi vrai que... il faut rendre hommage aussi à cette génération-là. Hein. C'est une génération qui a construit quand même une souveraineté énergétique. La question qui est plus préoccupante, c'est que les exploitants EDF, Areva, sont aujourd'hui des puissances qui fonctionnent de manière privée, même si c'est encore largement un actionnariat d'État. Mais ça fonctionne de manière privée. Donc le but, c'est quoi? Le but, c'est de vendre. Le but, c'est de gagner de l'argent. Le but, c'est... Bon, et c'est normal. C'est leur logique. C'est normal, mais la motivation, je crois, n'est plus la même que dans les années 70. La motivation dans les années 70, c'était la souveraineté énergétique, répondre à un défi. La question aujourd'hui, c'est beaucoup plus comment faire prospérer une filière. C'est différent comme approche. Oui. Et là, il peut y avoir des dérapages.
Merci à vous, Guillaume Mallory. Je le rappelle, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur et actuellement en train de plancher sur un sujet sur les perturbateurs endocriniens. J'ai intérêt à lire l'article. C'est encore donc une autre joyeuseté. On va poursuivre ce voyage en quelques instants. Écoutez cela.
Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai eu une gueule d'atmosphère? J'ai trouvé ça comique, une gueule de gaz carbonique. J'ai pensé que c'était bête, le réchauffement de la planète. Ça m'a fait des frissons, la combustion du charbon. Ça m'a mise en colère pour le système solaire. Ça m'a fait des frissons, la combustion du charbon. Ça m'a mise en colère pour le système solaire. Nucléaire, nucléaire, j'ai perdu la tête nucléaire. J'ai trouvé ça tragique, ce Tchernobyl panique. J'ai senti sa glacière, tous ses coups de tonnerre. Ça m'a mise en tempête, tout ce monde qui s'entête. J'aime tellement ma terre et son cercle polaire. Ça m'a mise en tempête, tout ce monde qui s'entête. J'aime tellement ma terre et son cercle polaire.
CO2 en amour, Denis Chessou.
Alors ça n'a pas fait un tube, hein, c'est interprété par El Facteur, mais ça s'appelait Atmosphère, donc de temps en temps on vous le glisse comme ça, et voici un nouvel appel.
Bonjour CO2 mon amour, on loue souvent l'Allemagne comme un exemple des pays utilisant de l'énergie propre et très peu de nucléaire. Alors j'aimerais tout simplement savoir comment font les Allemands pour assurer leur autonomie énergétique. Voilà, c'est très simple, merci et bon week-end.
Merci à vous Jean-Philippe, vous appelez de l'Île-de-France. On avait noté que vous étiez dans le Vexin, donc c'est-à-dire dans le nord de cette Île-de-France. Je ne sais pas précisément où, mais en tout cas je crois qu'il y a, voilà, je suis même sûr, il y a un parc naturel régional. Alors déjà vous dire que comme les États-Unis, 50% d'électricité de l'Allemagne, ça provient des centrales à charbon. Après, nous avons donc des énergies renouvelables telles l'éolien. Ils nous achètent aussi de l'électricité nucléaire. Et alors, pour nous en parler aussi, avec un exemple très intéressant donc, d'une ville, Ruth Segazi, qui est productrice à France Culture, l'émission Terre à Terre. Donnez-nous, s'il vous plaît, Ruth Segazi, l'exemple de Hanovre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là aussi, d'un point de vue énergétique et puis par rapport au nucléaire?
Manifestation. Manif anti-nucléaire dans toute l'Allemagne, mais en particulier à Hanovre. Et prise de conscience pour un certain nombre de jeunes Allemands qui n'avaient pas été si politisés que ça jusque-là, que là-dessus, stop, on ne veut pas. On ne veut plus de nucléaire. Dans la mesure où il y a eu ça, on ne veut plus de nucléaire. Le mouvement anti-nucléaire a été extrêmement fort en Allemagne et si fort qu'il a percolé jusque dans les autorités municipales. Et Hanovre a été une des premières villes d'Allemagne à décider de se passer totalement du nucléaire dès les années 90. Si bien que la compagnie qui était chargée de fournir l'énergie à la ville a été priée de ne plus acheter d'énergie, d'électricité d'origine nucléaire. On a donc construit des centres de cogénération, on a mis de l'éolien autant qu'on a pu, on a fait un peu de photovoltaïque, on a fait énormément de petites micro-centrales très, très délocalisées. Et voilà comment aujourd'hui, à Hanovre, il n'y a pas du tout d'énergie d'origine nucléaire.
Alors c'est toute la différence aussi avec nous, parce que là vous parlez vraiment de décentralisation, de petites centrales. Nous on est quand même dans un système d'ingénieurs avec le plus gros is beautiful, et puis il faut que ce soit centralisé. On le voit très bien d'ailleurs aussi, lorsque avec notre électricité photovoltaïque, il faut la remettre dans le circuit pour après qu'elle reparte. Enfin,
ce qui est étonnant, c'est à quel point ce modèle que vous décrivez, Denis, est aussi le modèle politique. C'est-à-dire que cette même décentralisation qu'on trouve sur les questions d'énergie en Allemagne, on la retrouve sur le plan politique. Les villes allemandes ont une autonomie bien plus grande que les villes chez nous. Elles ont la possibilité de gérer un budget, elles ont la possibilité de faire des choix et elles ont la possibilité de décréter à un moment qu'elles sortent de tel système pour aller dans tel autre.
À Hanovre, une ville courte distance, qu'est-ce que c'est ? Donnez-nous des exemples.
Alors, une ville courte distance parce que dans tous les quartiers de la ville, vous trouvez tout ce qui est nécessaire. Vous trouvez des emplois, vous trouvez des commerces, vous trouvez des écoles, vous trouvez absolument tout ce qui fait que la vie est ce qu'elle est dans une ville. Contrairement, si vous voulez, à toutes les villes qu'on a héritées, on va dire, des années 30, dans lesquelles on a fait un zonage très fort, vous avez le quartier des affaires, le quartier de ceci, le quartier de cela. Non, à Hanovre, vous avez de tout, partout. Et puis, vous avez un réseau de transport en commun qui est absolument admirable. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce luxe, Denis, qui consiste à monter sans même vous arrêter dans un tramway qui passe et puis ressortir quelques stations plus loin et attraper un bus qui passe et ressortir quelques stations plus loin et tout ça dans un flux tout à fait continu où à la fois vous marchez puis de temps en temps vous êtes dans le transport en commun et puis de temps en temps de nouveau dehors. Voilà, ça c'est Hanovre.
Le quartier durable de Kreuzberg, quelques mots dessus.
Le premier d'Europe. Ouais. Le premier d'Europe et qui a été demander aux services techniques de la ville, c'est ça qui est très intéressant. On leur a dit, voilà, on veut faire un quartier qui soit un quartier tout à fait exemplaire sur le plan de la gestion de l'énergie, sur le plan de la gestion des eaux pluviales. C'est réussi, hein. Ils font 75% de moins d'émissions de CO2 que les autres Allemands. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Mais là où c'est très intéressant, c'est que l'équipe dirigeante de la municipalité n'a pas dit « voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Ils ont fixé un objectif à leur service technique en disant « nous voulons atteindre cet objectif ».
Obligation de résultat.
Obligation de résultat. Débrouillez-vous, trouvez les moyens. Au début, ça a été la panique totale. Et puis en fait, ils se sont renseignés, ils ont trouvé ce qui se faisait de mieux à droite à gauche, ils ont fabriqué leur propre sauce, ils ont trouvé leur solution dont ils sont extraordinairement fiers aujourd'hui. Et ça a marché.
Merci Ruth Segazi, donc productrice à France Culture, l'excellente émission Terre à Terre le samedi matin, et aussi auteur des Pionniers de la Ville Durable aux éditions Autrement. Ah, on aime beaucoup ça. Muriel Pérez a choisi Mélodie Gardot. Jeune femme très douée quand même, toute jeune, je crois 26 ans, et originaire de Philadelphie, qui a été noyée dans le blues quand elle était petite, pour notre plus grand plaisir.
Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black. Thank you.
l'avez dit, hein, Saut de mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, et encore plus lorsqu'on écoute tranquillement jusqu'au bout, Mélodie Gardot. On continue avec un autre appel, et si vous voulez devenir éco-volontaire, c'est le moment d'écouter.
Bonjour CO2, j'ai entendu parler de l'éco-volontariat et j'aimerais en savoir un peu plus. Qui a droit, en quoi ça consiste réellement et est-ce qu'au final on est vraiment utile? Voilà, merci Denis, au revoir.
Vous habitez à Beaune, donc une formidable ville d'eau en Bourgogne, Astrid. Et c'est Cécile Houlet qui a 25 ans au compteur, eh bien, qui va pouvoir vous répondre. Bonjour Cécile Houlet.
Bonjour Denis.
Alors Cécile Houlet, vous êtes en Suède et on expliquera pourquoi. Alors, être éco-volontaire, qu'est-ce que c'est? Et peut-être déjà tout de suite, bien faire la différence entre écotourisme et éco-volontariat.
Ah oui, mais il y a une grosse différence entre les deux qui est malheureusement souvent floue. L'écotourisme, c'est quelque chose qu'on va faire quand on part en vacances, par exemple, et qu'on veut se rendre utile, qu'on a envie de mettre sa petite patte pour protéger la nature dans un pays qu'on visite ou une région de France. Et donc, on va payer un petit peu plus, comme on paierait pour une station, un hôtel ou un club med ou que sais-je encore. Mais là, on va donner un petit coup de main pour des projets de recherche ou des projets de conservation de milieux, d'espèces, etc. Ça, c'est l'écotourisme. Pour ce qui est de l'éco-volontariat, bah, c'est quand on a beaucoup de bonne volonté, mais pas d'argent. Mmh. Et qu'en échange, voilà, on échange son temps contre un peu d'expérience et puis une nouvelle rencontre dans un milieu naturel ou à propos d'une espèce en particulier.
L'éco-volontariat, ce ne sont pas des vacances et vous participez à un projet qui est professionnel.
Oui, c'est ça. C'est bien la différence. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui ne font pas vraiment la différence, qui vont venir sur des projets d'éco-volontariat. On va leur demander pas mal de boulot. On ne leur demandera pas d'argent, souvent, mais on va leur demander une assez grande implication. Et des gens, parfois, qui sont un peu surpris, ils se retrouvent à devoir bosser pas mal d'heures dans une journée, alors que, voilà, ils pensent être en vacances et profiter des lieux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça,
Est-ce qu'il faut avoir des diplômes en poche?
Ça dépend. C'est très variable, hein, parce que, comme on dit, éco-volontariat, ça peut aller planter des arbres au fond d'un jardin, enfin au fond d'un parc, je ne sais pas, dans son propre village. Et ça peut être aussi aller chercher des tortues de mer au Costa Rica. C'est très très varié. Pour ma part, j'ai un diplôme qui est pas forcément énorme. Enfin, c'est un BTS. C'est 2 ans après le bac, qui est pas spécialement. Je ne suis pas spécialisée sur aucune espèce animale.
Non, mais quand même BTS de gestion et protection de la nature, hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, quand même. Alors racontez-nous maintenant, Cécile Houlet, ce que vous avez fait, quels sont les projets auxquels vous avez participé?
J'ai participé à beaucoup de projets en Nouvelle-Zélande. J'ai eu la chance d'avoir un an à disposition dans ce pays qui n'est pas très grand, qu'on connaît très mal, mais où il y a beaucoup de choses à faire pour préserver l'environnement et où il y a... le gouvernement, indirectement, puis les associations locales qui sont très impliquées dans la protection du patrimoine naturel. Puis il y a beaucoup besoin de main-d'œuvre là-bas. Et moi, qui avais un petit peu d'expérience autour des oiseaux, avant ça, j'avais travaillé au parc ornithologique du Marcantère, que vous devez connaître.
Bien sûr, oui.
Et donc, avec ce bagage oiseau, je suis arrivée là-bas. Et puis, je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit. Et j'ai prêté main forte. D'abord, un chercheur en thèse qui avait besoin de quelqu'un pour assister sur le terrain, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait pas mal de projets aussi divers et variés, pas que sur les oiseaux d'ailleurs.
Hein. Alors en fait, vous êtes allé à la recherche de Madame Kiwi, hein, qui est un gros canard, qui est une espèce ancestrale.
Un gros canard, ah non, vous allez la vexer.
Oui,
oui, j'ai assisté, il y a des gros programmes avec beaucoup de moyens qui sont... lancé sur les kiwis, leur protection en Nouvelle-Zélande, c'est un peu l'emblème national. Et effectivement, c'est un oiseau qui est... Enfin, on se demande, quand on le voit, comment il a fait pour survivre à l'évolution, parce que ça ne vole pas, ça ne grimpe pas aux arbres, ça court pas très très vite. Mais bon, pourtant, ils sont toujours là, et c'est très très joli.
C'est pas comme le dodo, hein, bien sûr. Non, je disais, gros canard, c'était la taille, hein, comme un gros canard, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec un canard. Qu'est-ce que vous faites en Suède actuellement, aujourd'hui?
Alors, en Suède, je travaille pour le CNRS. Là, pour le coup, c'est un vrai travail, en fait. À force de faire plein d'éco-volontariat, j'ai réussi à me trouver des contacts et à être rémunérée pour travailler sur des oiseaux. Et ici, en l'occurrence, on travaille sur les gobe-mouches à collier.
Alors, ce que l'on entend quand même, c'est qu'en fait, cette expérience d'éco-volontariat après a débouché, peut-être ponctuellement, là, sur un travail avec le CNRS. Mais pourquoi vous avez choisi, en fait, profondément d'être éco-volontaire?
Alors en fait, j'ai pas choisi d'être éco-volontaire, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Je voulais voyager, Et il s'est avéré que, ben, voilà, comme j'avais un peu d'expérience et que c'est quelque chose que j'aime bien, tout ce qui est être dehors, travail de terrain, hein, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'éco-volontariat, c'est du travail de terrain. Puis que je suis en bonne santé, que j'ai pas peur de travailler un peu dur parfois pour pas grand chose, enfin, sans être payée, on va dire. Mmh. Voilà, je me suis retrouvée, à passer d'éco-volontariat en éco-volontariat. Au final, c'est la façon dont j'ai mené mon voyage. Et ça m'a tellement plu que j'ai envie de continuer.
On vous sent tout à fait opiniâtre. Merci à vous, Cécile Houlet. Donc, et puis, bonne suite donc, en Suède, où nous vous avons appelé. Comme ça, vous avez répondu à Astrid. Ça va peut-être lui donner quelques vocations. Des éléments, hein, comme sur le site de CO de Mon Amour, on a mis quelques sites. Et puis après, ce sera aussi à vous de chercher. Alors, avant d'écouter Pierre Radan, ceci va être pas mal du tout. C'est signé Benoît Dorémus. Ah ouais, on va faire la liaison, vous allez voir.
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si on est trop nombreux.
Mais non, Benoît Dorémus, pas de culpabilité, pas de dolorisme, de l'action. C'est ça qu'on aime dans CO2. Ça marche pas à se gratter pour se faire souffrir. De toute façon, les gens n'ont pas grand-chose à faire. Ils ont bien raison. Tenez, donc un autre appel.
Bonjour Denis, bonjour toute l'équipe de CO2. Alors, on entend beaucoup parler des plans climat en ce moment dans les villes ou les régions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est concrètement un plan climat ? Et merci, bonne journée.
Merci à vous, Céline. Vous habitez à Villeneuve-sur-Lot, très jolie commune dans le Lot-et-Garonne, qui est un de ces vergers donc, de la France, qui, je crois, s'est lancé récemment dans un agenda 21 pour structurer et donner de la cohérence à ses actions. Alors, c'est Pierre Radan, qui est expert climat-énergie, que vous connaissez, bien sûr, dans cette émission. Il intervient assez régulièrement, qui va vous répondre en posant le problème, Pierre.
Le changement climatique a comme particularité que ces émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement réparties sur le territoire et liées à des actions qui sont, je dirais, quotidiennes, qui sont microscopiques. Chaque fois que vous faites marcher votre chauffage, que vous prenez votre voiture, que vous prenez une douche ou que vous faites cuire quelque chose, il y a du CO2 qui s'en va. Et donc, il faut trouver une pratique dans laquelle on va essayer de lutter contre le changement climatique en allant le plus proche possible de la réalité des gens sur le terrain. Et ça nécessite donc de mettre en place des plans. L'État, à travers les lois Grenelle, a rendu obligatoire la mise en place d'un plan climat territorial dans toutes les communes de plus de 50 000 habitants. Mmh. Et ça, dans le mandat électif-ci. Donc chaque commune doit regarder ce qu'elle peut faire, alors pour elle-même, sur son patrimoine, ses bâtiments, mais ce qu'elle sait faire aussi par l'ensemble des acteurs sur son territoire, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des services publics, et puis chacun d'entre nous, les ménages. Et on a un grand rendez-vous qui va être ce rendez-vous de 2050. On doit, en France, avoir divisé par 4 nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un élu? Ça veut dire que ces bâtiments communaux doivent être vérifiés, analysés, qu'il doit savoir combien il rejette d'émissions de gaz à effet de serre, les industries également, comment ça se passe?
Il va falloir isoler, il va falloir parfois changer d'énergie, il va falloir mettre des horloges de programmation pour qu'on ne chauffe pas quand les locaux ne sont pas occupés, utiliser les énergies renouvelables. Donc il y a tout un ensemble d'actions qui vont être essentiellement des investissements qu'il va falloir réaliser au fil de l'eau, développer les transports collectifs, vous voyez toutes les gammes d'actions qui sont possibles. Alors, mettre en place un plan climat territorial, c'est quoi? D'abord, c'est prendre conscience du sujet, pour soi, mais aussi pour l'ensemble de la population. Et donc, il y a une première phase qui est une phase d'information, d'argumentation, de sensibilisation au sujet. Et encore une fois, cette question du changement climatique concernant chaque personne nous oblige à un bond démocratique considérable. Il faut aller chercher l'adhésion de chacun. Donc, qu'est-ce que serait un plan raté ? Alors là, je peux tout de suite vous donner la formule. Un bureau d'études talentueux, oui, qui pond 1000 pages et qui, par une nuit sans lune, devant un conseil municipal endormi, présente le plan climat avec personne dans la salle et puis le lendemain matin, une demi-ligne dans le journal du coin. Échec total. L'étude technique peut être bonne, aucune prise en charge. Bon. Et donc, il faut bien s'y prendre autrement. Donc la première phase, c'est on va chercher les gens, on les informe, on leur dit ce sujet va être un sujet majeur de votre vie, notre commune prend le sujet en charge, vous devez être dans le film. Et donc c'est des débats publics, etc.
Mais ça va être des choix, par exemple, de dire on va davantage insister sur l'isolation, sur les transports, on va tout prendre en même temps.
On est obligé de prendre tout le paquet en même temps. La deuxième étape derrière, c'est une étape de mesure.
Il faut partir quand même d'un point, voilà, d'un point zéro.
Il faut effectivement un état zéro sur une agglomération. Quelles sont les émissions à cause de ces activités industrielles, à cause des bâtiments d'habitation, les bâtiments tertiaires, les transports, les activités agricoles, les déchets, etc. Et donc il faut mesurer tout ça. Et regarder ces émissions et sont liées à quelles activités. Et donc c'est ça qui va servir de base de calcul pour lancer des actions ultérieurement. Ensuite, une fois qu'on a fait ce bilan carbone, ce profil de climat du territoire, alors en regardant aussi la fragilité du territoire, en quoi le territoire subit le changement climatique. Oui. Est-ce qu'il y a des zones inondables qui risquent d'être plus inondées encore que par le passé ? Comment le territoire, et notamment son type de construction, résiste aux canicules ? Il faut regarder tout ça aussi.
Oui, c'est-à-dire que la région nord, par exemple, sera sûrement plus fragile à ces problèmes d'inondation que la Creuse. Quoi.
Tout à fait. Ouais. Troisième étape, et alors là, elle est déterminante, c'est une étape alors, qu'on appelle de co-construction. On ne peut pas s'en sortir qu'avec les services municipaux. Il faut, là encore une fois, mettre tout le monde dans le bain. Et donc la manière de le faire, c'est de constituer des groupes de travail avec les responsables publics, avec les entreprises, avec les associations, avec des représentants des citoyens, avec les syndicats, et on met tout ce petit monde au taf. L'idée, c'est dans un processus collectif, chacun venant avec son savoir, ses expériences, on essaye d'identifier quelles seraient les actions qu'il faut conduire sur le territoire. Mmh. Alors, généralement, quand on veut accoucher d'un tel bébé, on s'en prend pour 9 mois. Oui. C'est le temps d'avoir plusieurs fois des réunions thématiques, par sujet, de regarder tout ce que l'on peut faire dans toutes les directions et de se convaincre les uns les autres de ça et de regarder, avec les professionnels notamment, qu'est-ce qui est faisable. Et le débouché de ça, généralement, c'est un livre blanc. Je suis très pour cette démarche-là, c'est-à-dire que ce travail citoyen d'élaboration collective doit être récompensé par quelque chose d'un petit peu sacré quelque part, oui, à savoir un texte qui est publié, qui va être accessible par tout le monde et qui va constituer la référence sur laquelle ensuite on va s'appuyer. Alors après ça, on passe à la quatrième étape. Donc là, on a une liste d'actions qui a, oui, été élaborée. Alors, ces actions, elles sont à ce moment-là quand même encore un peu qualitatives. Elles ne sont pas toutes applicables au même moment. On peut rencontrer des difficultés, puis il faut trouver l'argent, etc.
Non, mais il s'agit quand même de faire autant avec, de toute façon, bien moins d'énergie.
Oui, mais pour l'instant, il faut lister les actions, oui, et les classer. Oui. Bon. Et pour les classer, il faut avoir une phase qui est une phase un petit peu plus technique. Et donc la quatrième phase dans l'élaboration d'un plan climat territorial, ben là on met les ingénieurs au boulot, on met les économistes au boulot, on met les gens qui peuvent regarder comment transformer l'organisation du territoire, par exemple au plan de l'urbanisme, au plan des transports. Comment on peut transcrire toutes ces idées-là qui sont sorties du débat avec les citoyens. Et à ce moment-là, on a une élaboration qui n'est plus seulement un livre blanc, je dirais d'intention, d'envie, mais qu'il est, elle, à ce moment-là, un plan qu'on va organiser dans le temps, que la collectivité va pouvoir voter et qui va être, à ce moment-là, son plan climat territorial. Et là, vous voyez, on est dans un processus de construction, et là, ça ne va pas se faire par une nuit sans lune avec personne dans la salle.
Donc, voilà. Ce sera avec un calendrier, mais aussi s'y tenir.
Il y aura un calendrier, puis il y aura forcément des phases successives. Vous avez compris que cette affaire de changement climatique, elle est programmée dans nos vies au minimum pour deux générations, hein, le temps qu'on fasse cet énorme virage. Donc, ça ne va pas se faire, bien évidemment, en un seul jour. Il faut d'ailleurs résister à la tentation de vouloir tout faire tout de suite pour programmer les choses. Et après ça, il reste bien sûr deux étapes encore. Bah, une étape de mise en œuvre. Et là, c'est au fil des années, la collectivité vote un budget. Dans chaque budget, bah, il y a un volet d'action sur le plan climat. Et puis d'année en année, tout ça se succède et se met en œuvre. Et puis bien sûr, il faut derrière faire de l'évaluation, faire du suivi pour vérifier que tout ça marche bien. Et puis, il faudra à un moment être capable de regarder si le rythme et le niveau des actions engagées est conforme par rapport à la cible que les négociations internationales nous donnent. Parce que vous voyez bien qu'on est dans un processus où on met en place des actions, mais avec obligation de résultats à échéance fixée. Deux dates notamment en ce moment, nous devons pour 2020 réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis le rendez-vous qui est dans la loi française maintenant, c'est en 2050, on doit avoir divisé par 4. Donc c'est moins 80%. Bon. Voilà le jeu auquel on est aujourd'hui confronté. Donc c'est un énorme déploiement qui se fait. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Jamais dans nos territoires, on a eu à penser le futur d'une ville à 50 ans. Et là, non seulement on doit le faire, mais on doit le faire tous ensemble en mettant à contribution toutes les entreprises et les citoyens. C'est un grand rendez-vous démocratique.
Clarté, pédagogie et résumé, mise en situation, bah c'est donc Pierre Radan. La ville de Toulouse, on va la saluer parce que donc Pierre Radan a beaucoup travaillé sur ce plan climat. Elle va lancer son plan climat dans deux semaines. Et là aussi, donc 1000 personnes sont dans la boucle. Et on l'a bien compris, hein, si les gens sont dans le coup, bien les choses avancent. Nous allons avancer avec Dire Straits. Souvenez-vous, en 1977, que faisiez-vous, hein, au temps chaud? Je ne sais pas.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. With the Sultans of Swing.
le premier qui dit que ça ne lui a pas fait plaisir de réécouter d'ailleurs ça. Je ne le crois pas, c'est pas possible. Bon, ils sont plus ensemble, mais Marc Knopfler continue sa carrière comme un grand. Merci aujourd'hui à Renan Mahé et David Federman à la technique, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission, à Anne Gouzon, alors qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et puis qui a aussi donc ce site L'Environnement en temps réel. Alors la semaine prochaine, eh ben, ce sera Jean-Marc Jancovici qui va venir. Enfin, il y aura Jean-Marie Pell, il y aura d'autres choses, mais Jean-Marc Jancovici qui a un ouvrage d'ouvrage qui s'appelle Comment changer le monde, un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Possibilité pour vous de podcaster, autrement dit d'enregistrer cette émission pendant une semaine, de la réécouter pendant 4 semaines. Et je retrouve demain à 19h54 après les petits bateaux. Pourquoi ? Eh bien, pour la Tulu, mon petit loup. Allez, on va au théâtre.